ラジオオカピ
オカピ
オカピセービス、ジョディ・ダニエル・カシャマ。
Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie du magazine Okapi Service de ce jour. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent de droits des personnes autochtones, des peuples autochtones. Pourquoi est-ce important de faire la vulgarisation de ces droits et comment le faire? On en parle aujourd'hui avec John Benani, chargé de plaidoyer à la dynamique des peuples autochtones pygmées. John Benani, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati. Bonjour à tous les auditeurs d'Okapi.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jody Daniel Kachama au micro. Pierre Diassinois à la mise en onde. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
je à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience
qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous parlons à présent des droits des personnes autochtones. Vous savez, c'est la journée internationale des peuples pygmées autochtones est célébrée le 9 août de chaque année à RDC. La loi portant protection des peuples autochtones a été promulguée par le chef de l'État il y a de cela 2 ans. Mais cette loi nécessite une vulgarisation selon les acteurs de la société civile. Ces peuples dépendent étroitement de leur environnement écologique et toute modification de leur habitat naturel peut nuire à la survie, à leur survie. Voilà. Alors pourquoi c'est important de vulgariser les droits des peuples autochtones et comment le faire? On en parle aujourd'hui avec Monsieur John Benani, qui est chargé des plaidoyers à la dynamique des peuples autochtones pygmées, DGPA. John Benani, ravi de vous avoir dans cette émission au Capi Service. Alors, dites-nous pourquoi la loi qui a été publiée, la loi sur les droits des personnes autochtones publiée il y a de cela 2 ans, n'est pas suffisamment vulgarisée?
Merci, monsieur le journaliste Tati.
Jody.
Merci c'est Jody. Aussi à la radio Capi, qui a toujours porté une attention particulière pour la promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées en RDC. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement congolais dans un premier temps, qui a eu la volonté, après 30 ans de lutte pour qu'une loi qui doit promouvoir et protéger nos droits soit coulée dans ces pays. Je remercie vraiment le gouvernement congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a un instrument juridique national qui protège et fait aussi promouvoir les droits des peuples autochtones pygmées. Par rapport à votre question, depuis que le président de la République a promulgué la loi il y a 2 ans aujourd'hui, il n'y a pas vraiment du concret. Il n'y a pas vraiment de la mise en œuvre effective de cette loi où les communautés autochtones pygmées discriminées partout dans le pays sont. Donc, nous sommes là, nous sommes en train de plaider pour que cette loi soit vraiment mise en œuvre partout dans toutes les provinces où se trouvent les peuples autochtones pygmées. c'est la volonté politique pour les mesures, la mise en mesure d'application pour que la loi soit vraiment effective.
Bien. Alors, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de cette loi portant protection des droits des peuples autochtones? Quelles sont les grandes articulations de cette loi publiée il y a 2 ans?
Ok, merci Tati. La loi numéro 22-030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a des grandes lignes suivantes. La première des choses, les enfants autochtones pygmées dans tous les pays, dans les écoles publiques de l'État, ne doivent pas payer les frais scolaires de l'école primaire jusqu'à l'obtention du diplôme d'État. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, la loi prévoit la création d'un fonds national pour le développement des peuples autochtones pygmées que le premier ministre doit signer un décret. La loi nous donne la garantie ou l'accès avec l'accompagnement de l'État au service judiciaire. La loi aussi prévoit les droits à l'environnement. Pour nous, dans les milieux où nous sommes installés depuis nos ancêtres, la loi nous donne les garanties de gérer nos milieux avec nos savoirs traditionnels. Donc, voici, en bref, les grandes lignes de cette loi qui nous donne les garanties de protéger nos droits et de promouvoir nos droits.
Bien, alors commençons d'abord par les enfants autochtones qui ne payent pas les frais dans les écoles aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà d'application ou pas?
Je venais de le dire, Monsieur Tati, loi souffre de mesures d'application. Partout dans ces pays, les enfants pygmées continuent à souffrir pour l'éducation. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire, en tant que ressortissant de la communauté autochtone, les enfants pygmées continuent à payer. Je prends le cas ici à Kinshasa. Les enfants pygmées, nous avons fait des enquêtes ici. Ils continuent à payer aux écoles. C'est tous ceux qui sont à l'école secondaire. Bien que la loi, la constitution maintenant donne l'accès gratuit aux enfants à l'école primaire. Mais dans les écoles secondaires, les enfants pygmées continuent à payer. Or, la loi prévoit dire que le peuple autochtone pygmée ne peut pas payer. Donc, pour vous dire que aujourd'hui, il n'y a pas l'effectivité de cette loi, bien que le président de la République a promulgué cette loi.
Bien, donc cette loi jusqu'à ce jour n'est pas encore d'application. Les enfants autochtones, ils continuent à payer, ou soit ils vont pas à l'école parce que on leur exige de payer alors qu'ils devaient étudier gratuitement. Et qu'en est-il de la création de ce fonds national dont vous avez fait allusion? Et ce fonds devait s'occuper de quoi exactement?
Oui, le fonds, c'est pour le développement des peuples autochtones pygmées. Vous savez que nous aujourd'hui, nous sommes dans un retard par rapport à d'autres communautés de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la loi a prévu la création d'un fonds pour le développement des peuples autochtones pygmées. Je dis bien le fonds pour la création d'un fonds pour le développement des peuples autochtones pygmées. Donc ce fonds, c'est le décret du premier ministre qui doit donner la création de ces fonds. Donc jusqu'à ce jour, il n'y a pas un décret qui crée ces fonds. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, la loi souffre de mise en œuvre des mesures d'application.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la vulgarisation des droits des peuples autochtones. Pourquoi est-ce important de les faire aujourd'hui? Yves Laurent Mwamba, vous êtes à Kinshasa, Clément Daye à Kananga. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-9941. Bien, nous parlons des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Yves Laurent Mwamba de Kinshasa, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, Jean-Daniel Kachama. Merci de l'opportunité. Je salue d'abord l'invité, tous les peuples autochtones de la RDC. Je pense que ces peuples ont le droit de vivre parce qu'on se constate actuellement qu'il y a une déforestation qui ne dit pas son nom du milieu où ils vivent. Je pense qu'il revient, il est de la responsabilité de l'État de s'y pencher. Vous êtes en train de parler de la vulgarisation de cette loi. Il y a eu combien de lois que l'on a mis sur place qui ne sont pas respectées. Je pense que quand nous ne sommes pas conscients de ce que nous voulons atteindre, on assistera toujours à des rapages pareils. Je pense qu'il est de la responsabilité de l'État, mais aussi du peuple, afin que cette loi vraiment soit vivante, parce que ces gens méritent la vie, les droits à la vie. Ils méritent parce que ce sont les premiers habitants, les Kikimés sont les premiers habitants de notre pays. Ils ont droit à la vie. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Bon, ce qui est intéressant actuellement, c'est avoir le bureau définitif du Sénat. Bon, c'est la configuration politique, c'est le partage des postes. Mais ce qui est crucial, ce qui est important, on ne s'y penche pas.
Bien, merci d'avoir appelé Yves Laurent. Clément Daye, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Nkachama. Bonjour aussi à l'invité de la radio Capier et aussi à tous les auditeurs dont je salue en passant.
Quelle est votre réaction par rapport au sujet du jour?
En tout cas, ce sujet du jour, c'est un sujet pertinent qui m'intéresse personnellement. Il est vrai que les peuples autochtones, c'est un peuple à un moment donné qui est discret, qu'on est en train de maltraiter, minimiser tout ce qu'il pouvait bénéficier comme financement à un moment donné, comme assistance. Cela a été détourné à ceux qui ont toujours eu à penser que non, voilà ce que nous pouvons faire à votre faveur. Mais à un moment donné, on ne trouve jamais ce qu'ils ont toujours dit que nous allons faire pour vous aider là, ça n'arrive jamais. C'est ainsi que même pour les études des enfants de ce coin-là, à un moment donné, je ne trouve pas le pourquoi ils sont négligés. C'est ainsi que je voudrais juste demander à notre invité s'il pouvait donner plus de détails, si réellement il y a des initiatives pour que les enfants de ce peuple autochtone-là soient pris vraiment en charge. Puisque même pour les problèmes de santé, ça pose des problèmes, ils sont malades là-bas, mais les prises en charge chez eux là, c'est tout à fait compliqué là. C'est ainsi que je voudrais qu'ils nous précisent s'il y a eu de bonnes initiatives pour la prise en charge de ces enfants des peuples autochtones ou soit de tout le peuple autochtone en général. Voilà ce que je voudrais savoir de plus sur ce sujet en question. Merci et bonne journée chez vous aujourd'hui, Daniel Nkachama.
Merci Clément Daye. Godé Kidiongo de Kikwit, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci, monsieur Jody Kachama. Vraiment, lorsque vous avez épinglé cette mathématique, je me suis découragé, soit en disant, comment jugez-vous un peuple autochtone qui souffre jusqu'alors? Donc, on n'a pas encore vulgarisé leurs droits. Vraiment, ça fait déjà 10 ans passés. Comment nous vivons ici dans notre pays, Congo? L'argent a été détourné. Ah, car l'arrêté a été promulgué par le numéro 1 de notre pays. Comment les peuples autochtones continuent toujours à payer? L'invité aura le temps de nous proposer, de nous expliquer bien. Puisque quand on sous-entend de la vulgarisation des peuples autochtones, on sous-entend que c'est déjà démarré. Mais comment jusqu'alors les enfants des peuples autochtones commencent à payer l'argent? Et ils ne participent même pas au gouvernement. Nous poursuivons toujours, du jour au jour, les peuples autochtones sont négligés. C'est dit à quoi? Où est parti l'argent? Où est parti donc les promesses données par notre gouvernement? Vraiment, j'ai une question à poser à l'invité. Comment on va encore les réduire pour la seconde fois? Pour que les peuples autochtones puissent bénéficier de son droit. Qu'est-ce qu'il fallait le faire? Nous puissions encore appuyer pour que ça puisse être vulgarisé, même dans l'année 2024. Vraiment, je vous remets l'antenne. C'est Godé Kidiongo.
Merci, merci Godé Kidiongo pour votre intervention. Monsieur John Benani, à vous la parole.
Bon, merci Monsieur Tati. Je voudrais d'abord remercier les amis, hein, avec
John
leur vraiment intérêt qu'ils ont montré vis-à-vis de la problématique et de.
Monsieur John Benani, il s'agit pas de Tati.
Oui, Monsieur Tati.
C'est plutôt Jody Kachama qui est à l'antenne.
Je m'excuse de mon frère Jody. Alors, je voudrais dire ceci. Je remercie les intervenants de tout à l'heure.
Oui.
Avec l'intérêt, avec les plaidoyers qui sont en train de plaider, parce qu'ils trouvent vraiment que les peuples autochtones pygmées souffrent depuis plusieurs années dans ces pays. Toutes les interventions, c'est pour plaider à la cause des peuples autochtones. Vraiment, mais je voudrais tout simplement dire à mon frère qui est à Kananga, il est à Kananga, il voit mes frères et mes sœurs pygmées qui sont à Kananga. Il voit comment ils sont leur situation de vie sociale, comment ils sont en train de souffrir. Mais quelles sont les initiatives? Les pygmées, nous sommes les Congolais, comme tous les autres Congolais. C'est le gouvernement qui doit avoir des initiatives. S'il trouve un peuple qui est déjà en retard, ce n'est pas à nous de prendre des initiatives. Et nous sommes un peuple, nous sommes les Congolais tout entier, comme tout le monde. Les pygmées doivent avoir quand même une protection, comme tout le monde, tous les Congolais. Maintenant, les initiatives qui ont été prises par nous-mêmes, le peuple autochtones pygmées, je peux vous dire, la dynamique des groupes de peuples autochtones pygmées, c'est un grand réseau reconnu au monde entier. S'il vous plaît, si vous voulez entrer dans notre site internet, vous allez voir ce que nous sommes en train de développer en tant que société civile avec nos partenaires que nous sommes en train de plaider pour la cause pygmée. Nous avons pris des initiatives et aujourd'hui, je crois que partout dans quelques provinces du pays, il y a des peuples autochtones pygmées qui ont leur espace par rapport à concession de forêts de communautés locales. Ils ont la gestion propre de leur espace. Grâce au plaidoyer de DGPA. Donc, ce sont des initiatives que nous avons prises. Si aujourd'hui vous pouvez partir en Équateur, là où je suis né, vous allez voir qu'il y a des écoles primaires que nous avons initiées nous-mêmes et nous pygmées. Maintenant, nous plaidons pour que le président de la République puisse nous donner l'arrêté pour que ces écoles soient reconnues, soient mécanisées. Ce sont des initiatives propres à nous pygmées parce que nous sommes des humains, nous réfléchissons, nous voyons comment nous pouvons vivre. Mais nous appartenons à l'État congolais qui doit faire des initiatives parce que nous sommes en retard. Si vous voyez aujourd'hui dans les gouvernements actuels partout, dans les provinces, dans les gouvernements actuels, nous ne sommes pas représentés. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'intelligence. Qu'est-ce que nous avons fait dans ces pays? Ils se partagent les gâteaux dans les gouvernements, dans tous les systèmes, dans toutes les entreprises de l'État. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre part dans ces entreprises? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre part au gouvernement? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre part à l'Assemblée nationale? Est-ce que nous ne pouvons pas prendre part au Sénat? Qu'est-ce qui nous manque? Quand je m'exprime comme ça, donc les gens ne peuvent pas me comprendre. Même si je vais m'exprimer à Lingala, à l'Assemblée nationale, ou bien dans des entreprises, est-ce que les gens ne peuvent pas me comprendre? Donc, vous voyez, maintenant, nous sommes un peuple abandonné, pas seulement par les gouvernements actuels, depuis très longtemps, depuis l'indépendance. Or, l'histoire reconnaît très bien. Tout le monde a été à l'école. L'histoire connaît très bien que les pygmées sont les premiers habitants de ces pays. Pourquoi aujourd'hui nous sommes discriminés, nous sommes mis à l'écart par rapport à la gestion de la chose publique? Donc, voilà, nous avons déjà pris les initiatives. Si cette loi aujourd'hui existe et que le président de la République actuel a promulgué, ce n'est pas une initiative d'un député ou d'un gouvernement. C'est nous avons initié ça à 30 ans. Hein, à travers la DGPA, 30 ans que nous avons lutté pour que le pays soit doté de cette loi, pour que le peuple puisse se retrouver, nos générations futures puissent quand même se retrouver. Pour que les monteries, la discrimination que nous subissons, nous avons subi, que nos ancêtres ont laissé, que nous sommes en train de subir au jour le jour. En tout cas, mon frère, merci beaucoup tout le monde qui a participé. Je crois que vous avez déjà compris notre élite. Vous avez déjà compris la situation des pygmées dans ces pays, mais là-bas, elle appartient maintenant au gouvernement de nous écouter. Je parle de nous écouter. Nous ne sommes pas représentés dans toutes les institutions du pays.
John
nous
ne manquons
pas les capacités, nous ne manquons pas l'intelligence.
John Benani, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vulgariser cette loi 2 ans après sa promulgation?
La loi devient maintenant une loi nationale. C'est le gouvernement qui doit débloquer de l'argent pour que la loi soit vulgarisée. Traduit d'abord en langue compréhensible par les communautés locales, les peuples autochtones. C'est le gouvernement. qui doit nous faciliter la vulgarisation de cette loi? Pourquoi là, le gouvernement a accepté de promulguer cette loi? Pour que ça reste une loi comme ça, qui n'a pas de sens, qui doit rester comme ça, loi numéro. Non, c'est le gouvernement, monsieur Dodi Kachama, mon frère, c'est le gouvernement qui doit faire le tout pour vulgariser la loi dans les campements, dans les villages, les villages les plus reculés, dans les forêts où se trouvent mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que voici vos droits que le gouvernement a déjà prévu, a accepté, voici ce que vous devez réclamer, voici ce que vous avez comme droit. C'est le gouvernement.
Bien, on va accueillir Ngalamouloumé de Kananga et Malonga de Bandundouville. Ngalamouloumé, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour à l'invité et bonjour à vous tous.
Il y a un souci au niveau de la communication, Ngalamouloumé. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Malonga des Bandundouville. Bonjour Malonga.
Oui, rebonjour aujourd'hui, rebonjour à tous ceux qui nous suivent à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, ma question, ma préoccupation tourne sur nos confrères les Pygmées. Ce sont les premiers autochtones. Ce sont les autochtones, oui, nous les connaissons. Mais ce que j'avais dit encore dans le préalable, en disant qu'ils doivent se considérer étant les nationaux. Cette loi-ci, ça a été promulguée, puisque eux-mêmes, ils se sont laissés dans l'oubliette. Alors, comment vulgariser cette loi? Je dis, il y a les institutions. Hein, la loi est déjà édictée, c'est ça. Mais les institutions sont là. Les territoires sont là, les territoires décentralisés et tout ça, les ETD sont là. Ce qu'il faut renforcer à nos confrères et à nos frères, eux-mêmes doivent être aussi au clairon, hein, pour s'évaluer. C'est ce que j'avais dit et c'est ce que j'insiste. Puisque quelqu'un, s'il veut être reconnu, lui-même d'abord doit fournir un effort. Nous aussi, les Bantous, oui, nous sommes là. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils fournissent quelques efforts. Chacun fournit quelques efforts pour qu'il soit ministre, pour qu'il soit tel qu'il est aujourd'hui. Alors, eux aussi, les écoles sont déjà là. Tous sont déjà là. Ils sont informés. Et celui qui se verra vraiment compétent et qui se verra courageux, c'est celui-là qui sera tiré par le gouvernement. On ne peut pas tirer seulement n'importe qui là, qui ne se fait pas voir. Vous voyez aujourd'hui aussi les démunis, que, en tout cas, je félicite l'excellence président. Il a commencé à ouvrir le ministère de qui encore, des handicapés là. Hein? Vous voyez, même il se donne. Et ceux qui sont compétents à cette classe de la population, Ils se verront dans le gouvernement. Et aussi, ils se laissent toujours dans leur ancien caractère. Alors, comment est-ce qu'on va les suivre là-bas, dans le monde intellectuel? Je les invite, et nous les invitons, de venir auprès de la modernisation, pour qu'ils soient associés et pour qu'ils soient aussi intégrés dans le monde intellectuel. En tout cas, c'est ce que moi je peux conseiller à nos confrères. Mais sinon, la loi est là, c'est déjà connu. La loi est dire, mais c'est la loi, mais ça sera toujours exécuté. Et ça doit être toujours en vulgarisation. Et ça est là. En tout cas, merci.
Bien, la loi est là, mais elle doit être vulgarisée, elle doit être traduite dans plusieurs langues nationales. Ngalamouloumé, voilà, on va reprendre Ngalamouloumé de Kananga, Malandji Wanshinga. Ngalamouloumé, vous êtes là?
Je suis là, monsieur Jody, bonjour.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Merci beaucoup, Jody, merci à l'invité. Jody, vraiment, la question se tombe à
bon Désolé, Ngalamouloumé, en tout cas, c'est... Il y a des soucis avec votre ligne aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on va peut-être vous retrouver plus tard. John Benani, vous avez suivi Malonga et les autres qui disent que vous devez aussi vous battre en tant que, voilà, la communauté des peuples autochtones doit aussi se battre pour la vulgarisation de vos droits et pour que vos droits soient reconnus. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bon, Serge, je dis, donc voilà, je continue à remercier les amis pour ces encouragements. Hein. En tout cas, c'est bien. Mmh. Vraiment, ils nous encouragent d'abord à s'auto-prendre en charge. Mais je voudrais d'abord dire à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont dans les pouvoirs de savoir que aujourd'hui les Pygmées, nous avons beaucoup étudié, ceux qui sont dans les gouvernements, dans les entreprises sont pas plus intelligents que nous les Pygmées. C'est un problème d'exclusion. Ils sont en train de nous exclure volontairement. Aujourd'hui, pour devenir conseiller d'un ministre ou bien devenir un ministre provincial, qu'est-ce qu'on demande? On demande quel diplôme? Au sein des communautés pygmées aujourd'hui dans ces pays, nous avons des licenciés, nous avons des avocats, nous avons des anthropologues, nous avons. Aujourd'hui, nous avons même des femmes pygmées qui sont des assistantes dans les supérieures universités. C'est une façon de nous exclure. Ils se partagent les gâteaux. Moi, je m'en prends à ceux qui gouvernent le pays. Parce que dans la communauté pygmée, il n'y a pas de ressources qui manquent. Il y a des ressources humaines, nous sommes là. On travaille. Je dis, Kazuka, toi-même, tu sais que moi-même, j'ai eu la bourse du département d'État américain en 2014. Je suis parti aux États-Unis pour étudier la démocratie, voir la démocratie, comment ça fonctionne là-bas. Qu'est-ce qui me manque pour travailler à la CENI, pour travailler dans d'autres institutions? Je prends mon cap, ma Benani. Lorsque je m'exprime ici, est-ce qu'il faut qu'un pygmé, un bantou ou bien un ilotique vienne s'exprimer, parler à notre place? Donc, ce sont les encouragements, mes frères, mais nous considérons comme l'exclusion. On est en train de nous exclure. Ceux qui ont le pouvoir de dire que non, il faut que les pygmées soient là. Je prends le cas de Cameroun, je prends le cas d'autres pays comme le Gabon, où il y a des pygmées, on a copté déjà les pygmées dans les institutions du pays. On s'est rencontré ici dernièrement à l'espace, ici à l'espace, lors du conclave du bassin du Congo. On nous a parlé de Cameroun, il y a des pygmées au Sénat, on les copte seulement. Mais pourquoi pas ici au Congo? Ça, c'est un esprit de discrimination, un esprit d'exclusion qui est ancré dans les têtes des dirigeants congolais.
Bien, donc alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour la vulgarisation de la loi?
Bon, aujourd'hui avec nos partenaires, comme vous êtes en train d'insister, nous à notre part, avec nos partenaires techniques et financiers, partenaires internationaux, on a déjà commencé à vulgariser depuis que la loi a été déjà promulguée dans quelques provinces. Je prends le cas de Mbandaka chez moi maintenant, dans la province de l'Équateur. Dans sept territoires, il n'y a aucun pygmée qui paye les frais scolaires. Parce que moi-même, j'étais parti là-bas avec mon coordonnateur Patrick. Nous sommes partis là-bas. On a fait le plaidoyer auprès des autorités du pays. On leur a expliqué, on leur a donné la loi. À Bikoro, je suis parti là-bas. Ceux qui dirigent les institutions à Bikoro, ce sont des collègues. Ils ont compris que le président de la République a promulgué la loi. Nous n'avons rien encore à attendre. Si vous partez dernièrement ici à Bikoro, il y a beaucoup des enfants pygmées qui ont reçu des diplômes sans payer en Mbandaka, mais je suis en train d'encourager mes frères et sœurs pygmées qui me suivent de faire de vulgariser la loi. N'attendez pas l'argent. Il faut expliquer à nos frères, approcher les autorités, les décideurs, pour les persuader de leur dire que voilà, qu'est-ce que vous ne trouvez pas que les pygmées sont encore vraiment très reculés par rapport à d'autres communautés. Donc c'est notre problème. Le problème nous appartient, nous aussi, nous les leaders pygmées, pour mobiliser les nôtres, pour concerter les nôtres, de sensibiliser, d'expliquer cette loi. Une partie des responsabilités nous reviennent nous dit. Ça, je le dis ouvertement, tout le monde est en train de me suivre, les pygmées, je crois que nous sommes là, ceux qui vont me suivre après, ils vont... Nous avons une part de responsabilité pour mobiliser nos frères, vulgariser cette loi. Même on ne peut pas attendre les moyens financiers, non, nous, on n'a pas l'argent. Mais nous avons déjà un outil que le pays nous a donné. Nous devons faire un travail. Nous avons une responsabilité de vulgariser cette loi, nous les pygmées, auprès de nos frères et sœurs.
Bien. Et comment on doit se faire cette vulgarisation? Il faut d'abord la traduire dans les langues nationales.
Oui, effectivement. Je dis, nous avons déjà d'avancer, hein, ici au bureau, nous on a déjà traduit cette loi dans les quatre langues nationales ici chez nous avec nos partenaires. Donc c'est qui les partenaires qui nous financent ont compris que la loi doit être traduite. Mais on a, nous, de notre part, nous avons déjà traduit. Mais la grande responsabilité revient à l'État congolais. On ne peut pas laisser l'État congolais comme ça. Parce que l'État, c'est le père de tout le monde. C'est lui qui détient l'argent, qui peut faire tout pour son peuple, c'est l'État. Hier, nous avons voté. Nous sommes partis dans le bureau de vote. On a voté, on a élu les députés nationaux. On a élu le président de la République. Donc, et ils doivent savoir que les Pygmées ont fait un effort pour nous élire. Et ils doivent nous aider à dégager cette loi, à traduire cette loi. Ils sont là-bas. Pourquoi? Parce que nous l'avons choisi.
Bien. Donc, déjà, à votre niveau, il y a quelques efforts qui sont faits pour vulgariser la loi, mais vous avez besoin d'un coup de un soutien de la part du gouvernement congolais. On va encore reprendre Ngala Mouloumé depuis Kananga. Ngala Mouloumé, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces thèmes du jour?
Oui, merci, jeudi. Je suis là. Bonjour.
Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah oui, je disais que vraiment la situation des Pygmées, la situation est partagée. Premièrement, la situation est partagée par le gouvernement. On ne comprend pas, monsieur Jeudi. Dans ce pays, même les décisions prises par les présidents de la République, par le gouvernement, vraiment, c'est difficile de mettre ça en pratique. Nous demandons au gouvernement si la prise en charge des enfants autochtones pygmées est difficile, mais que le gouvernement pense quand même à construire des écoles au niveau de leur communauté, au niveau de leur région. Le gouvernement peut construire des écoles de primaire, maternelle, secondaire, même les universités, dans ce sens-là. Parce que ces peuples-là, c'est depuis que nous avons grandi dans ce pays. On sait que parler de ces peuples, non, ils n'ont pas ceci. Ces peuples souffrent, ils n'ont pas cela. Vraiment, c'est difficile. Ça nous fait, même nous qui sommes des Bantous, ça nous fait aussi des problèmes du cœur. De l'autre côté, les problèmes, c'est aussi, et les Pygmées, mes prédécesseurs l'ont parlé, et aussi, ils sont là, calmes, dans l'air, quoi, personne ne bouge, personne ne parle. Alors, ils peuvent même se déranger, quitter leur région, venir même à Tanan, comme ceux-là qui sont ici à Tanan. Nous ne les voyons même pas dans des universités, ils sont là, mais on ne parle, non, celui-ci, c'est un peuple, c'est un Pygmée. Franchement, ils ne font absolument rien. Non, c'est ça ce que nous voulons un peu leur demander. Ils doivent aussi se réveiller. Il y a beaucoup de peuples, ici, dans notre région de Kananga, il y a des peuples-là qui ne faisaient absolument rien comme d'études, mais ils se sont déjà réveillés. Vous le voyez que non, ils sont maintenant des gens qui sont capables de prendre des décisions, ils sont capables de contribuer aussi à la communauté. Ils doivent aussi se réveiller. À travers leur président, leur caucus de président de communauté, ils doivent envoyer les gens à Kinshasa, à Lubumbashi, faire des universités. Voilà, ça va aussi ouvrir l'œil des autres qui sont restés. Merci beaucoup, jeudi. Nous vous disons merci parce que Radio Kapi donne la chance à tout le monde de s'exprimer. Merci beaucoup.
Bien. Monsieur John Benani, à vous la parole. John Benani, vous avez la parole. Allô? Monsieur John Benani, vous êtes là? Voilà, on va tenter de le reprendre. Nous parlons aujourd'hui de loi de la vulgarisation des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo avec Monsieur John Benani qui est chargé de plaidoyer à la dynamique des peuples autochtones pygmées. Thomas, vous êtes en ligne depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody. Et bonjour à l'invité et une fois de plus aux auditeurs de la radio. Moi je pense que cette loi là doit être vulgarisée partout parce que tout doit commencer d'abord par le gouvernement. Le gouvernement doit s'approprier cette affaire-là. Parce que les Pygmées aussi ont droit au même titre que nous, nous aussi. Je pense que le gouvernement doit s'impliquer pour d'abord sensibiliser. Bien sûr que ça, c'est d'abord pour eux-mêmes, d'abord les Pygmées doivent s'approprier cette loi-là. Mais aussi, le gouvernement doit être en appui. Les médias aussi ont un rôle à jouer quant à ça, surtout pour sensibiliser à travers peut-être les émissions radio diffusées, pour éduquer ou éparpiller cette loi-là pour les Pygmées. Mais la grande question qu'on doit se poser, tout ça doit commencer aussi. Est-ce que pour le moment, on connaît d'abord l'identification? Est-ce qu'on connaît d'abord, on a combien de pygmées sur l'ensemble du territoire? Mon prédécesseur a parlé de construire des écoles pour que ces gens-là ont droit à une scolarité, mais tout ça doit passer par la cartographie. On doit d'abord les identifier. Ils sont combien sur l'ensemble du territoire? Parce qu'on pourra construire des écoles, on pourra les intégrer parce qu'ils ont aussi le droit à l'éducation, la gratuité. Les enfants bénéficient. Et aussi, à leur tour, s'il y a moyen, ils doivent passer par ça. Mais on doit d'abord les identifier, surtout les connaître. Ils sont combien sur toute l'étendue du territoire national. Mais aussi, il faut que le gouvernement puisse, on doit impliquer les communautés autochtones dans leur prise, dans les prises de décision. On ne sait pas si réellement est-ce qu'il y a un pigment au sein du gouvernement. On ne sait pas. Et aussi, on doit quand même à une place à la représentativité, mais est-ce qu'ils sont là dans les conseils du gouvernement, même dans des cabinets, même? Et aussi, je pense, on ne devrait pas les rejeter. Et aussi, on doit quand même à des postes, parce que parmi eux, il y en a de ceux qui ont quand même étudié, qui peuvent être compétents pour vaquer même à certaines occupations au sein du gouvernement. Mais aussi, on doit promouvoir un dialogue et la collaboration gouvernementale, mais aussi entre les peuples autochtones, pour trouver s'il y a cet échange-là entre le gouvernement et les peuples autochtones. Vous voyez que ça peut aussi faciliter à connaître leurs difficultés. Peut-être qu'ils sont dans des problèmes-là, mais comme le gouvernement ne les approche pas pour connaître et peut leur situation, vous voyez, ils sont isolés-là. Mais si jamais il y avait cette forte collaboration-là entre, d'une part, l'État à travers le gouvernement, mais aussi les représentants, parce qu'ils ont les représentants, on devait quand même essayer de voir et puis de dialoguer avec et connaître leur désirata. Vous voyez que ça pourrait énormément les satisfaire. Mais quant à ça, j'ai des questions à poser à l'invité. La question est de savoir quels sont les principaux défis auxquels les communautés autochtones sont confrontées pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut, l'invité peut nous donner des réponses quant à ça? Quels sont les défis ou les problèmes dont fait face les peuples autochtones à ces moments-là, partout à travers les pays?
Merci Thomas, merci beaucoup Thomas. John Benani, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Thomas qui veut connaître les problèmes auxquels les peuples autochtones pygmées sont confrontés en RDC?
Oui, merci Thomas pour votre intervention. Il vient comme une contribution, hein. Vous avez contribué comme tes prédécesseurs. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés, d'abord, le monde entier doit me suivre, c'est la discrimination, l'exclusion. Partout où se trouvent les pygmées, nous sommes victimes de la discrimination et de l'exclusion. Ça, c'est le grand défi. Si vous ne voyez pas même les pygmées présents dans toutes les institutions du pays, c'est la discrimination, l'exclusion. Alors, si vous laissez la discrimination, l'exclusion, nous sommes aussi confrontés par un grand défi aujourd'hui de l'exploitation forestière à outrance. Parce que les pygmées, nous vivons des forêts. Nos ancêtres vivaient des forêts. Mais maintenant, avec l'exploitation forestière à outrance par les transnationales, maintenant, notre vie, la vie des pygmées devient problématique. Parce que les produits forestiers non lignés sont en train d'être exterminés par cette exploitation, par l'agriculture itinérante sur Brilly. Vous savez que les pygmées, dans l'histoire, nous vivons de la chasse, de la pêche, de la cueillette. Maintenant, avec l'engouement des agriculteurs, avec l'engouement de l'exploitation forestière à outrance par les transnationales, en complicité avec les nationaux, maintenant, c'est un grand défi. Ça déstabilise notre vie ancestrale, notre vie traditionnelle. Donc, nous sommes dans une émission, il y a beaucoup de défis, mais j'ai quand même donné l'essentiel, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. L'exclusion, la marginalisation. Vous avez parlé de la représentation des pygmées dans les instances de prise de décision. Ça, c'est l'exclusion. Pourquoi on est en train de
toujours de nommer des gens, mais on n'a jamais appris un petit peu. On l'a mis même un bourgmestre ou bien dans, ou bien comme un ministre professeur. Rien, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est l'exclusion, la discrimination. Mais allez dans les écoles au niveau des villages. Les enfants pygmées sont marginalisés, sont discriminés. C'est pourquoi ils ont même la difficulté d'aller à l'école. Ils sont frustrés.
John Benani, donc, voilà, lors des dernières élections, est-ce qu'il y avait des candidats pygmées à tous les niveaux?
Oui, Jody, vous savez bien, nous avons passé une émission avec vous, non? Il y avait plus ou moins dans tous les pays 30 et quelques candidats pygmées, aucun n'a réussi. Hein, aucun n'a réussi, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a aussi des gens qui étaient promis, proclamés au niveau de la CENI, que nous avons constaté qu'ils n'ont pas été élus comme les autres pygmées dans différentes provinces. Il y avait plus ou moins 30 pygmées qui s'étaient donnés comme volontaires pour battre campagne.
Bien, on va accueillir Tagami et Jonathan qui nous appellent des Bounia. Nous parlons aujourd'hui de la vulgarisation des droits, de la loi qui protège les droits des peuples autochtones congolais. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui cette loi n'est pas suffisamment vulgarisée, 2 ans après sa publication? John Benani est notre invité aujourd'hui. Il est chargé de plaidoyer à la dynamique des peuples autochtones pygmées.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bien, Jonathan Tagami, bonjour.
Bonjour, cher Marcel.
Non, c'est plutôt Jody Kachama. Alors, bienvenue dans cette émission. Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord demander à l'invité une question de savoir si est-ce que, selon les statistiques à sa possession, l'on dénombre actuellement combien de peuples autochtones ou soit combien de pygmées déjà scolarisés. Ça, c'est vraiment une question que... il doit qu'il puisse un peu nous répondre par rapport à cela. Parce qu'il se laisse voir que, cher journaliste, que les pygmées eux-mêmes sont exclus. Il a soulevé la question de l'exclusion. Moi, je vois que, quelque part, ce sont eux-mêmes qui sont exclus. Dans nos milieux ici, si vous faites une curiosité, vous partez vers les milieux de Mambasa, vers un peu la brousse là-bas, vous trouvez que les pygmées sont peurés. Ils sont là seulement dans la brousse, ils ne veulent même pas voir les humains. Ils ne veulent pas même voir
les Bantous.
Nous les autres.
Les Bantous.
Le peuple Bantou, plutôt, voulais-je dire. Oui. Alors, lorsque vous les approchez comme ça, ils prennent fuite. Ils sont à brousse. Donc, eux-mêmes, ils sont là, culpabilisés. C'est ça, c'est pas moi, je peux dire, exclus eux-mêmes. Alors, donc, pour que l'on puisse vraiment battre une bonne démarche pour eux, il a fallu à ce qu'eux-mêmes, d'abord, aussi se donnent. Parce que, vous savez, dans la participation des choses politiques, par exemple, comme les prédécesseurs ont soulevé et lui-même l'invité, vous savez, on ne peut pas forcément venir vers vous. Il est aussi question de venir vers la politique et venir vers la gestion des choses. Alors, dans la participation, par exemple, gouvernementale, là, c'est encore un peu plus loin. Il fallait d'abord commencer, il fallait savoir, parce que on a des gestions au niveau local ici. Ils peuvent même être des chefs de quartier d'abord, ils peuvent commencer à être chefs d'abbaye, ils peuvent commencer à être maire ou bourgmestre de la commune, ainsi de suite, pour prétendre être un jour ministre, un jour un président de la République. Alors, tout cela ne se fait pas par un coup de bateau magique, non, mais tout cela, ça se prépare. Entre autres, comme il a soulevé la question de l'école, vous savez, on peut construire aujourd'hui les écoles dans leur milieu, mais ces écoles, on a peur que demain ou lendemain, qu'on ne trouve aucun pygmée en train d'étudier, parce que il est vraiment très à noter que ces mêmes pygmées, ils ne se donnent pas vraiment, vraiment pour ce genre d'activité et pour ce genre d'initiative. Alors, peut-être il va falloir à ce que le leader pygmée ou le leader autochtone puisse vraiment, vraiment intérioriser et puis cette vulgarisation prenne vraiment de l'ampleur au niveau de leur communauté pour que ceux-ci sachent qu'ils sont aussi des peuples congolais et ils ont les mêmes pied d'égalité, ils ont le même droit que nous tous, et même dans la participation des choses publiques, et même dans la prise de décision dans cette République. Même dans l'armée, on ne voit presque plus les pygmées, alors qu'ils sont là, ils sont vraiment aussi une armée forte. On a vu autrefois une attaque venant vers Luna, et ce sont les pygmées qui ont réprimé cela. Parce que ils ont constitué un bouclier, une force comme ça, et ils ont réprimé cette attaque. Alors, on se disait que ce genre de personnes, et si elles intégraient l'armée, par exemple, congolaise, mais elles seront aussi efficaces, et elles vont aider les FARDC à booster et à faire à ce que notre armée aille en avant. Alors, donc, c'est un peu ça. Justement, ce sont les personnes, nos frères, bien sûr, mais eux-mêmes, ils sont culpabilisés, eux-mêmes ne veulent pas participer. Et je pense que la prise de conscience doit commencer à leur propre niveau, avant que nous, les autres, les battus et les autres, puissions penser aussi à eux. Parce qu'on a discuté pas qu'ils sont le premier peuple, le précurseur ici en RDC, alors ils ont carrément et totalement une place aussi, et nous avons vraiment une large considération à leur égard, et je pense qu'eux aussi ils doivent se considérer et ils doivent prendre conscience. Alors c'était
merci, ça, merci beaucoup Tagamile. John Benani, à vous la parole.
Ok, en tout cas je remercie beaucoup mon frère qui vient d'intervenir. Je vais d'abord donner la réponse par rapport au nombre de primaires scolarisés. Je voudrais d'abord dire à mon ami que lui, il doit savoir que c'est le gouvernement la responsabilité de connaître le nombre de primaires scolarisés dans ces pays. C'est le gouvernement qui a cette responsabilité. S'il a la volonté de promouvoir, de protéger les pygmées, il doit quand même, il doit demander à recenser les corps pygmées qui sont déjà des diplômés, des gradués, des licenciés, des doctorats. C'est le gouvernement. Ça, c'est de un. Moi, je ne peux pas donner le nombre de pygmées scolarisés. C'est le gouvernement qui doit donner le nombre de pygmées. En m'entendant comme ça parler, il doit savoir que je suis pygmée de père et de mère. Je suis pygmée de Bicor. Je suis né au village. Donc, en m'exprimant comme ça, je ne sais pas s'il me comprend lorsque je parle. Et derrière moi, est-ce qu'il croit que moi, je peux avoir combien d'enfants qui sont scolarisés? Ça, c'est donc un exemple. Le gouvernement doit donc recenser le nombre de pygmées intellectuels, ceux qui peuvent faire tel ou métier, c'est le gouvernement. Ce n'est pas à nous de lui donner le nom. Alors, pourquoi les pygmées fuient dans la brousse? Oui, parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont marginalisés par les bantous. Quand ils voient les bantous, ils doivent fuir dans la brousse, isolément volontaire. Ça, c'est le thème de la journée internationale de cette année, que la communauté internationale a donné. Donc, on s'isole volontairement parce que nous subissons la discrimination des dominants. Les bantous, ce sont des dominants. Ils dominent sur nous, les pygmées. C'est pourquoi nous avons la confiance à la forêt. On prend fuite dans la brousse. Parce que la brousse, c'est la forêt. Là où nous vivons, nous sommes calmes, sans discrimination. Alors, maintenant...
Il a parlé aussi de l'auto-exclusion. Pourquoi? Selon lui...
Non.
Les peuples autochtones... font de l'auto-exclusion.
Non, ça c'est, en tout cas moi je dirais non, parce que je dirais non, une personne qui subit, qui souffre de la discrimination, de la malédiction vis-à-vis de son voisin, ça c'est l'auto-exclusion. Donc moi je ne suis pas d'accord avec lui sur l'auto-exclusion, parce que moi je parle là, je travaille avec les amis, si nous sommes plus ou moins 16 personnes dans les staffs de la DGPA, mais on travaille, on collabore ensemble. Il y a aussi d'autres pygmées qui arrivent ici au bureau, ils n'ont pas peur, ils s'expriment pas. Alors j'allais dire, bon, il a demandé au leader pygmée de prendre le courage de sensibiliser ce que nous avons déjà fait, la conscience des pygmées. Ça c'est vraiment c'est une sensibilisation. Ils sont en train de nous encourager pour que nous prenions conscience de notre destinée. Nous prenons conscience de notre destinée. Et je vous dis que si aujourd'hui le pays s'est doté de cette loi parce qu'on avait une conscience, si les pygmées n'étaient pas impliqués pendant l'initiative de cette loi, en tout cas, on n'allait même pas avoir cette loi aujourd'hui promulguée. Bien. Tout le monde le sait, on passait au niveau du Parlement, beaucoup de pygmées qui sont ici à Kinshasa faisaient des pieds de machines jusqu'à l'Assemblée nationale pour venir plaider auprès des députés. Ils faisaient les pieds de Kinkol là-bas jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est une conscience déjà collective. Donc, mais la conscience vient petit à petit. Voilà ce que j'allais placer comme mot par rapport à l'intervention de notre ami de tout à l'heure.
Bien, on va accueillir Sylvain de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody, je suis plutôt à Maragui.
Vous êtes plutôt à Maragui.
Donc, je suis en train de suivre cette émission. Et rapidement, Jody, je pense que même avant d'aller dans cette loi, hein, il faut lire les articles 13 et 66 de notre Constitution. La problématique est tellement fondée. Quand vous lisez ces articles, et d'ailleurs, quand vous prenez notre Constitution, c'est pratiquement à partir de l'article 11 jusqu'à 15 de notre Constitution qui parle des droits civils et politiques où notre Constitution impose, n'est-ce pas, la non-discrimination à une quelconque ethnie ou tribu. Les pygmées aujourd'hui, c'est vrai, ils se lamentent. Et je pense qu'à mon humble avis, et ceci à conformité avec l'article 66, d'ailleurs que je préfère lire rapidement, tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder et de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Voyez-vous? Donc, si déjà nous tenons compte de cet article 66 de notre Constitution, c'est très clair que ce que l'invité dit est tout à fait normal. Nous le constatons tous qu'il y a une catégorie de gens, et spécialement nos frères pygmées, qui ne sont même pas considérés. Il y a même des gens qui partent très loin. Hein. Je vais éviter des stigmas identitaires, bantous, nilotiques, qui que ce soit. Mais
qui partent. Oui, dommage Sylvain, il y a des soucis au niveau de la ligne téléphonique. Dommage. John Benani, bon, on s'approche petit à petit, on chemine petit à petit vers la fin de cette émission. Sylvain est là.
Je dis oui, je vous écoute. Là, vous me suivez très bien.
Oui, là, ça va. Quelle est votre question, Sylvain? Quelle est la question que vous adressez à John?
Une question des Congolais.
Oui, pouvez-vous répondre
à la question? Je disais, aujourd'hui, moi. Allô?
Oui, allez-y.
Moi, je n'ai pas une question, mais par rapport à ce que l'invité a dit, je voulais ajouter dans son argumentaire les articles 13 et 66 de notre Constitution, d'ailleurs, qui soutiennent ce qu'il dit. Et ça, je pense que la responsabilité est plus au niveau des gouvernants politiques. C'est très important qu'on sache que discriminer crée ce qu'on appelle la décohésion, la désunité ou la désunion nationale. C'est pourquoi il faut qu'on travaille sur les plans politiques. Je propose à un moment donné qu'on ait quand même des cadres de concertation pour que ce genre de comportement s'arrête. Ce qui est vrai, l'invité a dit quelque chose que je trouve important, que les bantous négligent les pygmées. Demain, on dira l'outil de ce genre de débat. Pour moi, c'est une question que l'on puisse humaniser les dirigeants politiques congolais pour qu'on ait une considération assez globale et respectueuse de toutes les ethnies qui composent la RDC.
Merci beaucoup, Sylvain. John Benani.
Ok, en tout cas, moi, je félicite l'intervenant de tout à l'heure qui a compris notre cause. Bon, je voudrais tout simplement dire que nous nous battons. Donc, le gouvernement a une lourde responsabilité. La responsabilité des peuples autochtones pygmées aujourd'hui revient au gouvernement. Le gouvernement, c'est celui qui gère tout, qui a tout. Donc, nous sommes les Congolais. Nous sommes les premiers habitants de ce pays. Moi, je place le premier habitant de ce pays. Notre conscience maintenant collective est déjà est en train de travailler.
D'accord. Donc, merci beaucoup, John. On n'a plus beaucoup de temps. John Benani, je rappelle que vous êtes chargé des plaidoyers à la dynamique des peuples autochtones pygmées, DGPA. C'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien qui a porté sur la vulgarisation des droits des peuples autochtones. Voilà, c'est cette loi qui a été promulguée par les chefs de l'État il y a de cela 2 ans, n'est pas suffisamment promulguée et jusqu'à ces jours. Merci John Benani et à la prochaine. Et mesdames et messieurs, à vous qui avez suivi cette émission, merci d'être à l'écoute de ce magazine de La Vie au quotidien au Capi Service. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Pierre Diassinois était à la mise en onde, Jody Daniel Kachama au micro. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.